Vous le savez maintenant, nous avons organisé un jeu concours avec Alain Juillet et je vous donne rendez-vous à la fin de cette émission pour répondre aux modalités et pour participer à ce jeu. Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour.
Bonjour Claude.
Une émission toute particulière parce que l'année 2024, on pourrait dire l'année de tous les dangers, à la fois pour les démocraties et d'autres pays. Lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit il y a plus d'une centaine d'élections.
Il y a plus d'une centaine d'élections cette année. C'est une année exceptionnelle.
Donc la Terre peut tourner autrement.
Absolument. En finale, ça peut tourner autrement.
Alors, on va se concentrer sur les élections européennes, parce que dès l'instant où il y aura une nouvelle commission, des nouveaux présidents autour de la Commission européenne, ils vont avoir des dossiers très importants à traiter pour recréer une nouvelle Europe, où on sent que les peuples européens, chacun dans leur domaine, avec leurs spécificités, bougent de plus en plus.
Ah oui.
Et là, il faut apporter des réponses claires et précises pour que l'Europe aille de façon plus sereine dans le 21e siècle.
Nous allons avoir donc effectivement des élections européennes et qu'en fonction de la forme et des rapports de force du nouveau Parlement européen, eh bien, la politique européenne risque d'être ou pareille aujourd'hui ou très différente d'aujourd'hui. Or, les derniers sondages semblent indiquer qu'il va y avoir une évolution au niveau du Parlement européen, avec moins d'écologie, moins de gauche et plus de droite. Ce qui pourrait changer beaucoup de choses, et on va y venir dans cette émission, et c'est très intéressant, parce qu'évidemment, la vision des uns n'est pas celle des autres. Alors, sur le plan militaire, pour aller sur la première partie, sacré problème, je dirais, de Donald Trump, qui a maintenant de grandes chances, pour ne pas dire pratiquement toutes les chances, d'être réélu président des États-Unis, a dit une chose très intéressante. Quand on l'a interrogé récemment, il y a quelque temps, sur ce qui se passerait après son élection pour la guerre, il a dit « j'appellerai Poutine, on fera un deal, on arrête la guerre ». Bon, jusque-là, après tout, c'est peut-être pas si mal, il est peut-être temps d'y penser, vu ce qui se passe et le nombre de morts tous les jours. Mais là où ça devient plus grave pour les Européens, c'est qu'il a dit « Et puis cette guerre, on l'a faite au nom des Européens et pour les Européens. Elle nous a coûté beaucoup d'argent. Il va falloir que les Européens nous remboursent. » Et là, ça fait froid dans le dos quand on sait les sommes qui ont été investies. Hein, là, c'est plus 50 milliards comme les Européens ont voté il y a quelque temps. Hein, là, c'est beaucoup plus. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder ça de manière très sérieuse. Alors, sur la guerre, nous en France, on a effectivement une politique plutôt guerrière. Au départ, plutôt neutre, hein, je dirais même un peu à un moment tendance. Au début, peut-être même un peu tendance russe. Bon, on est devenu tout à fait neutre et puis on a basculé et maintenant on est parmi les plus agressifs pour défendre l'Ukraine. En disant que, évidemment, ce qui d'une certaine manière est exact, c'est qu'il faut défendre l'Ukraine parce que si Poutine voulait continuer après l'Ukraine, il pourrait nous envahir. Bon, et là, je crois qu'il faut arrêter tout de suite, c'est de la propagande et pas autre chose. Parce que, regardez le budget militaire de Poutine, il est 10 fois inférieur au budget américain. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est 10 fois plus petit que l'autre peut sérieusement l'attaquer? Réponse, non. Mais on voit bien que derrière, il y a une volonté de certains, dont les Français, de continuer la guerre en Ukraine. Qui coûte une fortune à l'Europe, et pour laquelle un certain nombre de pays d'Europe sont totalement contre. Ça, il faut bien le prendre en question. On a de plus en plus les populations d'Europe qui réagissent, comme d'ailleurs les populations des États-Unis, du Middle West américain, en disant « ça suffit, il est temps qu'on arrête cette guerre ». Et ils se rallient. En définitive, tous ces pays-là sont un peu sur la ligne du général Zaloujny qui a été viré par chef d'état-major des armées ukrainiennes, viré par le président Zelensky, parce qu'il avait le malheur de dire la vérité, nous sommes dans une impasse et il faut en tirer les conséquences. Et d'autre part, nous n'avons plus assez de jeunes ukrainiens pour aller se battre. Et donc, on a un autre problème, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Bon. Alors après, d'ailleurs, Zaloujny évoquait d'autres solutions en disant qu'il faut faire évoluer la guerre, tirer des missiles sur la Crimée ou sur la Russie pour déstabiliser les Russes. Oui, parce qu'il reconnaissait que la guerre en Ukraine, ben, il faut le dire, elle était pour le moins figée et probablement perdue. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que peuvent faire dans cette guerre les Occidentaux ? D'abord, je crois qu'il faut bien reconnaître, c'est que les Européens, à travers la guerre en Ukraine, se sont refédérés autour de l'OTAN. Notre président disait il y a quelques années, l'OTAN est mort. Hein ? Aujourd'hui, non. L'OTAN est la première puissance militaire européenne et l'OTAN est dirigée par les Américains. Donc, il faut être clair, les Américains pilotent la défense européenne. Bon. Tous les pays européens, ou presque à part la France, achètent du matériel américain pour s'équiper et avoir, je dirais, un matériel à peu près équivalent, qui soit compatible avec lequel on puisse travailler tous les pays réunis. Bon, ça, c'est en cours. Bon, ça nous pénalise, nous, Français, puisqu'on était le pays qui avait développé une véritable industrie de défense, et on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à vendre dans nos pays alliés en Europe. Donc la solution pour nous, ça va être de continuer à essayer de vendre dans les pays hors Europe, les BRICS et d'autres. Mais comment vendre aux BRICS quand vous êtes associé aux opposants, aux ennemis que sont les pays occidentaux ? Pas facile. Donc on a un rôle difficile à jouer là, et il faut espérer que nos commerciaux, des grandes entreprises de défense, trouveront la faille pour pouvoir vendre.
Hein ? Cette guerre à nos portes entre l'Ukraine et la Russie pourrait peut-être donner un coup d'accélérateur justement à ce que vous venez de dire, cette défense européenne, mais une vraie défense européenne.
Oui. Alors,
et un complexe militaro-industriel européen.
Alors vous avez raison, mais alors tout de suite, projetons-nous, si vous voulez, à la fin de l'année, où, comme je vous le disais, sont toutes les chances, a priori, Trump est président des États-Unis. Et souvenons-nous de ce qu'avait dit Trump quand il était président des États-Unis. Il avait dit, l'OTAN, nous on veut s'en retirer, parce que notre priorité, c'est la Chine, on veut aller là-bas, et il est temps que les Européens prennent leur destin en main sur le plan militaire en investissant suffisamment. Donc effectivement, on va le savoir à la fin d'année, si Trump est élu, il y a toutes les chances pour qu'il nous dise « Il est temps maintenant que tous les pays européens vous investissiez parce que nous, on ne veut plus le faire. » Alors là, est-ce qu'il y a une chance pour l'industrie européenne, comme vous le parlez ? J'en suis pas sûr, parce que je pense que les Américains diront « Vous investissez, mais vous continuez à acheter du matériel américain. » Et les pays, on en avait évoqué dans une émission, les pays de l'initiative des trois mers, c'est-à-dire les pays du nord, les 14 pays du nord de l'Europe, limitrophes de la Russie, ou ayant été sous le joug soviétique à la grande époque, ces pays-là, de toute manière, continueront à s'approvisionner et à travailler avec les Américains, parce qu'ils ont la conviction, qui n'est pas fausse, que les autres pays d'Europe ne les défendront pas s'ils sont attaqués.
Alors, deuxième sujet, c'est l'agriculture européenne. Et là, encore une fois, on se rend compte, les agriculteurs français, les agriculteurs italiens, allemands, tout le monde se rend compte que finalement, les décisions sont prises à Bruxelles.
À Bruxelles, oui.
Vient se télescoper en plus les accords avec le Mercosur. C'est quand même un sujet d'indépendance agroalimentaire pour l'Europe.
Vous avez raison, mais il y a deux problèmes, si vous voulez. D'une part, le Parlement européen était indiscutablement dominé par les écologistes et les partis de centre-gauche. Bon. Et la Commission européenne est constituée essentiellement de technocrates, brillants certes, mais totalement hors sol, pour être gentil, il y en a certains qui sont très remarquables, mais la majorité sont complètement hors sol. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, et c'est le problème de l'agriculture. En Europe, sous la pression écologiste, on a voté un espèce de plan vert, pacte vert, enfin on peut l'appeler comme on veut, hein, pour, à marche forcée, mettre l'Europe dans les meilleures conditions possibles pour la lutte contre le réchauffement climatique. Je ne ferai pas le commentaire méchant de dire que comme nous sommes les seuls dans le monde et qu'on représente pas grand-chose au niveau mondial, je dirais que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Mais enfin, peu importe. Il y a une motivation, respectons-la, après tout. Hein, respectons-la et disons, ben oui, on va donner l'exemple. Après tout, c'est très bien de donner l'exemple. Le problème, c'est que nos technocrates et nos écologistes ont fixé des objectifs sans jamais se préoccuper de leur application pratique et des conséquences, surtout sociales, économiques, sur les gens concernés. Avec l'agriculture, c'est fascinant, si vous voulez. On a balancé toute une série d'interdictions, on a balancé toute une série d'obligations d'évolution, hein, dans le cas de ce fameux plan vert ou pacte vert, sans jamais se préoccuper des conséquences au niveau de nos agriculteurs et de nos agricultrices. Et le résultat, c'est qu'on a ruiné la moitié d'entre eux, qu'on a des produits qui sont inadaptés, et surtout dans le même temps, parce qu'on est dans, et là vous l'avez évoqué avec le Mercosur, hein, parce qu'on est dans un monde dont nos technocrates et nos idéologues du Parlement européen et de Bruxelles sont convaincus, hein, on est dans un monde mondialisé, et il faut les libre-échanges. Seulement, le libre-échange entre quelqu'un qui utilise n'importe quoi, sans aucun contrôle, face à quelqu'un qui est bloqué par des règles, des normes et autres, ben moi je peux vous dire qu'il va gagner. Si vous mettez un gars à faire un combat de boxe avec des gants, et que vous le mettez face à un type qui fait du full boxing, hein, la grande tendance actuelle, moi je peux vous dire qu'il va gagner, ça ne va pas traîner. Hein, parce que celui qui se bat avec ses poings, avec ses pieds, avec tout ça, il va gagner, ça sera plutôt rapide en général. Même face à un champion du monde.
Donc il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde.
Mais bien entendu, le premier problème de Bruxelles et du Parlement, c'est de dire, nous devons évoluer, là-dessus tout le monde est d'accord, mais on doit évoluer à une vitesse qui permette à chacun d'entre nous de s'adapter et de ne pas se retrouver paupérisé ou détruit par les mesures que nous avons prises. Si, c'est fascinant. L'histoire de l'agriculture cette année, c'est fascinant. Quand vous voyez des pays, alors la France, l'agriculture française est en crise depuis longtemps, nous avons été la première agriculture européenne, on a réussi à se faire passer par les Allemands, c'est aberrant, hein, et par d'autres, mais bon, hein, elle est en difficulté, très bien, et les règles qu'on a mises en France, qui étaient encore plus dures que les règles européennes, ont encore aggravé la situation. Là, c'est clair, nous sommes coupables, on l'a cherché. Bon. Puis les Allemands, ils sont la première agriculture européenne, donc ils ont bénéficié du système, il n'y a pas de secret. Ils ont bénéficié du système par rapport à nous. Et on peut se penser, s'il y a un certain nombre de règles imposées ou poussées par les écologistes allemands et les centres-gauches au niveau du Parlement qui sont sous contrôle allemand, on peut penser que ça a joué. Hein. Les Allemands s'en sont mieux tirés que nous. Il n'empêche que même là, eux aussi manifestent en disant que c'est plus supportable. Et vous voyez partout, vous voyez les Espagnols, les Belges, tout le monde manifeste. Donc c'est bien la preuve que le problème n'est pas de tirer sur un seul pays, c'est que les décisions de Bruxelles concernant l'agriculture sont stupides, il n'y a pas d'autre terme, au niveau européen, parce qu'elles n'ont tenu aucun compte de la réalité de l'agriculture européenne. Or, on le dit beaucoup, la souveraineté passe en commençant par la souveraineté alimentaire. Si on est obligé de tout importer de l'extérieur, dans le cadre de la mondialisation, on dépend de l'extérieur, et s'il n'y a plus d'importation, on meurt. Donc c'est un vrai problème.
Alors pour rebondir sur le pacte vert d'un côté, la souveraineté de l'autre, on pourrait aborder aussi un sujet que nous avons découvert et qui se traite là aussi à Bruxelles, c'est le prix de l'électricité.
Ben ça c'est une...
Avec le nucléaire d'un côté,
ouais, mais
bon, ça c'est
oui.
Une chose. Et puis le fait de faire venir ou d'imposer aussi les voitures électriques à un moment donné... Ouais. Et là, le premier fabricant, il est un peu en Asie. Donc tout ça est un peu compliqué. Alors parlons d'abord du nucléaire, du prix de l'électricité.
Alors,
qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible?
Si vous voulez, là aussi, il faut dire merci aux Allemands. Hein.
Ah.
Les Allemands, la stratégie allemande de Schröder qui a été reprise par Angela Merkel, donc au début du XXIe siècle, était la suivante. Hein, je vous rappelle, c'était la défense, c'est les Américains, c'est l'OTAN. L'économique, tiens, c'est la Chine, et les énergies, c'est la Russie. Et l'idée allemande, c'était de dire, et là c'est Schröder d'ailleurs, qui a été ensuite le patron de la société qui contrôlait le Nord Stream 1 et Nord Stream 2, du côté russe. Hein, il était administrateur de la société russe qui gérait ça. Schröder a dit, bon, c'est simple, nous, on n'a pas le nucléaire, il faut qu'on on va utiliser le gaz, il viendra de Russie, et pour qu'il ne passe pas par l'Ukraine, par la Pologne, par tous les pays traditionnellement qui font à la frontière de la Russie, et qui font que chaque fois que ça passe chez eux, ils touchent une royalty sur le gaz qui vient de Russie, pour éviter ça, on passe le gaz de la Russie directement sur l'Allemagne par la mer Baltique, c'est les fameux pipes Nord Stream 1 et Nord Stream 2, comme ça, le gaz arrive chez nous, et c'est nous qui le redistribuons à toute l'Europe en prenant un pourcentage au départ. Donc, superbe opération. Hein. Il reprenait le contrôle des énergies au niveau européen. C'est intelligent, il faut reconnaître, c'est très intelligent. Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais avant, il faut savoir que le problème, c'est que le gaz, certes, arrivait pas trop cher de Russie, était utilisé bien sûr en Allemagne, mais il y avait un problème, c'est qu'en France, on avait le nucléaire qui était moins cher que le gaz russe. C'était insupportable. Donc les Allemands ont financé, on a fait d'ailleurs une émission là-dessus, les Allemands ont financé à travers leurs deux instituts très connus, hein, des ONG en France, bonjour l'éthique de ces ONG, entre parenthèses, ils ont financé des ONG en France pour taper sur le nucléaire français, arrêter le nucléaire français, ce qui allait permettre aux Allemands d'être tout puissants avec le gaz. Le drame, c'est qu'effectivement, on est tombé dans le piège. Et qu'on a vu, on a arrêté tous nos projets nucléaires, le Superphénix, enfin, tout ce qui était l'avenir hein, du nucléaire et l'amélioration du nucléaire. On a été jusqu'à arrêter des centrales comme Fessenheim. Hein. Donc on a eu tout faux. Résultat de l'opération, on a eu tout faux pour nous. Totale satisfaction au niveau des Allemands, bien entendu. Parce que comme on ne pouvait plus produire assez, ben il fallait acheter du gaz allemand. Et comme il fallait acheter du gaz allemand, on l'achetait bien sûr au prix allemand. Et donc on a commencé à voir monter le prix de notre électricité. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, on est arrivé et avec l'affaire du Nord Stream 2, hein, on a dit maintenant on ne peut plus avoir du gaz russe qui n'est pas trop cher, on va être obligé d'acheter du gaz à l'extérieur. Et les Allemands en particulier, mais nous aussi, on a acheté du gaz de schiste américain. Entre parenthèses, nous avons voté en France contre le interdisant la recherche et la production de gaz de schiste. Et aujourd'hui, hein, nos sociétés, Engie par exemple, achètent du gaz de schiste américain et le vend en France. Un peu bizarre quand même. Hein. Enfin bon, oublions un truc de plus un peu surprenant. Hein. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que ce gaz américain, il est vendu beaucoup plus cher par les Américains aux Européens que le gaz qui arrivait du Nord. Et comme tous les pays d'Europe souffrent de la même situation, parce que ce qu'on a vécu nous, d'autres l'ont vécu aussi, alors on a eu un coup de génie, on a dit on va faire une péréquation du prix du gaz au niveau européen. Et évidemment, ça fait encore augmenter le prix du gaz. Donc en définitive, avec ces erreurs stratégiques successives, alors là c'est très grave, hein, avec ces erreurs stratégiques successives, nous allons nous retrouver avec un prix de l'électricité en France et en Europe, d'ailleurs, mais en France surtout, en France, pas la nôtre, qui était le pays où l'électricité coûtait le moins cher, on va se retrouver avec une électricité qui aura plus que doublé. Ça ruine la population, puisque pendant des années, comme le nucléaire produit une électricité pas chère, on a dit à tout le monde, utilisez l'électricité pour vous chauffer, pour tout. Et puis maintenant, il s'avère que c'est un piège affreux. Alors, dans le même temps, c'est là où il y a des moments où il faut se poser quand même des questions sur qui conçoit des politiques pareilles. Alors qu'on voit le prix de l'électricité qui monte en flèche, dans le même temps on a dit les voitures c'est catastrophique, les voitures à moteur thermique c'est catastrophique, on passe à l'électricité. Ça veut dire qu'on va payer, on va approvisionner nos voitures avec une électricité qui coûte deux fois plus cher qu'elle ne coûtait avant, déjà. Une réussite totale. Pour faire des voitures électriques, il faut, c'est des nouveaux moteurs, c'est des nouveaux produits, les terres rares qui viennent de Chine et d'ailleurs. Bon, et
les batteries,
les fameuses batteries. Bon, mais pendant ce temps-là, il faut qu'on arrête nos voitures à moteur thermique. C'est un bouleversement au niveau des entreprises de production d'automobiles. C'est un bouleversement au niveau de toute l'industrie de l'entretien et de la maintenance automobile. D'accord ? Il y a quand même des questions à se poser parce que les seuls pays au monde qui ont décidé d'arrêter les moteurs thermiques, ce sont les Européens. En 2035, comme vous savez, ce sont les Européens. Tous les autres pays du monde ne veulent pas. Et pourquoi ? Parce que les autres pays du monde savent très bien qu'entre-temps, on améliore l'hydrogène et qu'en 2035, on pourra remplacer l'essence par de l'hydrogène. On ne change pas les moteurs, il y a juste quelques petites choses à changer. Hein, on ne change pas les moteurs et à ce moment-là, le problème est réglé. Nous, on aura détruit notre industrie automobile européenne. Bravo, alors qu'on était les leaders mondiaux. C'est ce qu'a dit Yiping, le Chinois, qui lui est à ce côté-là une vision plus longue que la nôtre. Quand il a dit au dernier congrès, hein, il a dit « J'ai donné instruction, pour le moment, nous exportons les voitures électriques, mais je donne instruction que dans 10 ans, tout soit remplacé par des voitures à hydrogène. » Et là, on aura réussi à tuer complètement l'industrie automobile européenne. Bravo, les Chinois s'occuperont, avec probablement d'ailleurs aussi les Japonais, s'occuperont de notre marché automobile. Donc là encore, je dirais, ce sont des décisions qu'on peut comprendre par un certain côté, mais qui n'ont absolument pas été réfléchies au niveau des conséquences et dans la durée. Vous voyez, voilà encore un autre exemple, il y en a plein d'autres sur lesquels on peut parler, bien entendu.
Alors, question de trouver un secteur d'activité où l'Europe est en pleine forme. Prenons de l'altitude, prenons de la hauteur. Peut-être pouvons-nous parler du spatial qui, avec les satellites,
tout à fait.
L'Europe était fantastique, la France.
Ah, l'Ariane, on a réussi avec Ariane 5, à être 6. Le roi des gros lanceurs pendant 20 ans.
Alors, qu'est-ce que l'Europe peut faire dans le spatial? Parce que là, c'est vraiment aussi une dimension géopolitique, géostratégique très, très, très importante.
Vous voyez le spatial, on voit que les Américains. La technique Elon Musk du premier étage récupérable pour les lanceurs d'une certaine taille s'est révélée un succès, après des échecs au départ, mais s'est révélée un vrai succès, et fait qu'aujourd'hui, les lanceurs américains d'Elon Musk et de ses collègues sont beaucoup moins chers que les lanceurs européens. Donc évidemment, déjà, pour les commerçants, pour ceux qui veulent mettre des satellites, les sociétés privées, qui veulent mettre du matériel dans l'espace, évidemment, c'est plus intéressant de prendre un lanceur qui coûte un tiers moins cher que les autres. Bon. Alors, on voit que la réponse qu'on a trouvée en Europe, c'est de dire, on va faire des lanceurs spécialisés, tout petits, pour lancer des petits satellites à basse altitude, puis plus grands, et ainsi de suite, pour essayer de compenser, par une gamme, un éventail de lanceurs, le fait qu'on ne maîtrise plus le secteur des lanceurs. Enfin, on va démarrer bientôt, enfin, on a encore reporté, mais on peut espérer que bientôt l'Ariane 6 va partir, mais entre-temps, les Américains ont pris une grosse avance. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les Américains. Parce que les Chinois, on n'en a jamais parlé pratiquement, mais en 2022, ce sont les Chinois qui ont fait le plus grand nombre de lancements dans l'espace avec la fusée Longue Marche. Et ce n'est pas fini. Parce qu'on s'aperçoit que les Chinois continuent à envoyer, alors on n'en parle pas parce que ça se passe en Chine, mais ils continuent à envoyer des fusées dans l'espace à grand nombre pour mettre en place des satellites. Ils construisent à toute vitesse une station spatiale internationale qui va être plus moderne et concurrentielle, bien sûr, de la nôtre, mais qui aura été construite en 4 fois moins de temps. Et puis, comme vous avez pu voir, ils font des missions vers la Lune, ils se préparent. Et à mon avis, quand les Américains vont lancer le gros tir sur Mars, on risque d'avoir des surprises du côté chinois parce qu'ils avancent extrêmement vite. Alors, nous, là-dedans, les Européens, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, quand on a eu, après l'Ariane, derrière Ariane, on a eu les Italiens qui ont développé la fusée Vega, on a eu les Allemands qui ont protesté en disant « mais il nous faut aussi des lanceurs » et qui ont réussi à obtenir l'autorisation d'avoir de petits lanceurs. Bon, les Russes, depuis la guerre en Ukraine, on s'est arrêté, donc on a pu les lanceurs russes, qui étaient bien pratiques, parce que c'était des lanceurs moyens qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc pour le moment, je dirais, on n'est pas dans une très bonne position. On voit que les Américains, avec Elon Musk, avec Jeff Bezos, et les différents projets en cours, sur les tout petits satellites, les Américains ont pris une avance considérable. Hein ? On l'a vu avec la guerre en Ukraine, quand les Russes ont neutralisé le satellite ukrainien qui permettait de faire la liaison au niveau des liaisons militaires sur l'Ukraine, et qu'il a été neutralisé, et que du coup Elon Musk a proposé de ses propres petits satellites avec ses téléphones portables, et qu'effectivement ça a permis à toute l'armée ukrainienne de nouveau d'avoir des liaisons. Entre parenthèses, ça nous a fait découvrir quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Hein ? Donc là, on voit bien qu'il y a, donc il y a plein de choses qui se passent, mais on est bon pour faire des satellites en commande des autres, mais on n'est plus le référent qu'on a été à une époque. Alors, on essaie d'exister, certes, mais on n'est plus référent. Et surtout, ce qui me paraît beaucoup plus dangereux là pour la France, c'est que la France a été le maître d'œuvre du spatial en Europe. Il est clair que maintenant, avec la concurrence italienne, la concurrence allemande et autres, la France va perdre une partie de sa force, je dirais, au niveau spatial. Donc, on n'est plus les maîtres du monde, loin de là, hein, c'est clair. Malheureusement.
On peut parler de la relation des relations entre l'Europe et le continent africain. On en a beaucoup parlé entre la France et l'Afrique, mais on peut étendre à l'Europe. Oui. Comment l'Europe peut parler avec l'Afrique et comment l'Afrique peut se développer avec l'Europe ?
L'Afrique est, on peut dire, méconnue par les pays du nord de l'Europe. Ou peu connue. Enfin, si vous voulez, elle n'est pas vécue comme quelque chose dans lequel on peut vraiment, avec qui on peut vraiment travailler. L'Allemagne essaye depuis 2-3 ans de s'intéresser à l'Afrique. On commence à voir arriver des Allemands, on en a vu au Mali et au Niger, comme par hasard d'ailleurs, après qu'on soit parti. Hein. Mais il n'y a pas que les Allemands, il y avait les Américains, il y avait tout le monde, hein, à part nous. Hein. Mais on voit que les Allemands essayent en se disant « il y a peut-être des marchés à prendre ». Mais indiscutablement, les pays qui sont le plus en pointe avec l'Afrique, ce sont les pays du sud de l'Europe, hein. L'Espagne, qui travaille très bien avec le Maroc, qui nous a remplacés. Hein. On s'est brouillé avec le Maroc, c'est l'Espagne qui nous a remplacés. L'Italie, et ça c'est très intéressant, qui est en train de reprendre pied dans une zone où l'influence italienne avant était très importante, c'est-à-dire la Tunisie, hein, la Libye, et même jusqu'à l'Égypte. Hein. C'est des pays dans lesquels les Italiens avaient une grosse influence. Hein. Surtout la Libye. Et donc là, on voit aujourd'hui les Italiens qui renouvellent les liens avec ces pays-là et avec la volonté de les descendre plus bas. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il n'y a pas, à travers la Libye, à travers... Non, on peut descendre jusqu'au Soudan, à l'Éthiopie. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Donc l'Italie est intéressée. L'Espagne est intéressée. La France, elle, est en très mauvaise posture. Ce n'est pas un secret. Hein. Tout le monde le sait. On en a parlé dans plusieurs émissions. Nous avons perdu une partie des pays francophones carrément parce qu'on nous a chassés. Mais dans les autres, on ne peut pas dire qu'on soit si bien que ça. Parce qu'on applique ou on met en œuvre une politique vers ces pays-là qui visiblement est mal adaptée par rapport à la réalité africaine d'aujourd'hui. Le grand problème, on en a parlé donc là, dans des émissions précédentes, hein, et donc qui ont eu un certain succès d'ailleurs. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, en Afrique, la France, en tant que pays, est rejetée. Les Français ne sont pas rejetés parce qu'on connaît l'Afrique, on est francophone, on les aime bien. Mais on reproche effectivement à la France, et donc à travers elle, il faut qu'on fasse très attention, on nous reproche un côté un peu colonialiste, paternaliste, qui n'aurait pas assez évolué par rapport à une nouvelle réalité africaine, par rapport à une jeunesse africaine qui attend autre chose d'autres pays parce qu'elle veut des partenariats d'égal à égal. Et ça, on a beaucoup de mal dans notre pays à l'admettre. Et je dirais, très franchement, je pense que l'Europe, de ce côté-là, il n'y a pas que la France qui a une vision un peu trop coloniale de l'Afrique.
Énormément de dossiers, de sujets très importants sur la table des futurs députés européens, d'où l'importance capitale des élections à venir.
Absolument.
Et il faut espérer que, en tout cas, les futurs députés français, européens, soient armés pour aborder tous ces sujets.
Vous avez raison, parce que regardez, par exemple, le problème d'immigration. Hein, on en a beaucoup parlé ces dernières années, ces derniers temps, des migrations, des migrants. Mais le problème des migrants, ce qui est frappant en Europe, c'est la vision de Bruxelles, très technocratique, la vision des opérateurs, Frontex. Quand le malheureux patron de Frontex a le malheur de dire la vérité sur la Méditerranée, on le vire, donc c'est simple. Hein, comme disait la chanson, hein, le premier qui dit la vérité, il faut l'exécuter. Hein. Les pays du Nord qui ont une politique ouvertement opposée à toute immigration, les pays du Sud qui sont très différents selon leurs besoins démographiques, enfin, on voit bien qu'il n'y a pas d'unité du tout et que c'est du chacun pour soi. Bon. Et à la fin, on voit même Madame Meloni, par exemple, qui négocie avec l'Albanie pour que dorénavant, les migrants qui arrivent en Italie, au lieu d'aller à Lampedusa et ailleurs, on les met en Albanie, ce qui fait que ce sera beaucoup plus facile de les virer une fois qu'ils auront été refusés. Hein ? Parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans Schengen, à Lampedusa ou ailleurs, on ne peut plus les mettre dehors. D'où l'intérêt, d'où la négociation des Anglais avec le Rwanda, qui disait on va les envoyer au Rwanda, et ainsi de suite. Si on les met en dehors de l'Europe, ils ne rentrent pas en Europe avec Schengen. Mais si on les met dans l'Europe en attente, ils sont dans Schengen et c'est cuit. Bon, ça, c'est une réalité. C'est très intéressant de voir les réactions des uns et des autres, de tous les pays. Et on voit bien que là-dessus, et tout le monde le sait, on va voir après les élections européennes quel sera le camp qui va dominer. Et à partir de là, il est évident qu'il y aura toute une série de mesures qui vont être prises. On a toutes les solutions possibles à travers les gouvernements européens. Le problème, c'est qu'il faut qu'on choisisse une solution acceptable qui, dans la durée, qui tienne compte des réalités et qu'on la mette en œuvre. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que ce n'est pas le cas. Sous la pression, entre parenthèses, des lobbies, il faut, dans tout ce qu'on a évoqué, il faut parler du rôle des lobbies à Bruxelles qui défendent systématiquement un certain nombre de positions. Et la plupart d'entre elles sont des positions qui, à l'évidence, ne vont pas dans l'intérêt de l'Europe, mais dans l'intérêt de certains groupes et de certaines minorités. Ça pose un autre problème. Il va peut-être falloir un jour qu'on voit où est l'intérêt général et qu'on cesse de s'intéresser à l'intérêt particulier d'un petit groupe pour retrouver l'essence même de la démocratie, à savoir que c'est la majorité qui décide et pas la minorité.
Eh bien, Alain Juillet, merci pour tous ces éclairages, et on commence à percevoir quand même toute l'importance de ces élections à venir.
– Fondamentale, on joue l'avenir, hein. On joue l'avenir de l'Europe, je crois qu'il faut bien voir les choses. Si l'Europe, à la suite de cette élection, n'est pas capable de trouver rapidement des solutions et continue sur sa lancée actuelle, ça va se terminer par un crash, je ne sais pas comment, en implosion, en explosion, mais il se passera quelque chose.
Bon. Souhaitons qu'on trouve des solutions
bien sûr,
communes.
C'est l'intérêt général.
De l'intérêt effectivement général.
Nous avons tous intérêt à l'Europe, soyons clairs. Hein, face aux États-Unis, face au bloc maintenant chinois, mais face également au bloc des BRICS et autres, une Europe désunie, on ne peut pas tenir. On a besoin effectivement d'une Europe, mais pas de n'importe quelle Europe.
Eh bien Alain, merci. Et je vous donne rendez-vous certainement pour des émissions spéciales sur l'Europe tout au long des mois à venir pour vous accompagner peut-être dans votre réflexion en prévision des élections. Je vous dis merci et à très bientôt sur Open Box TV. Au revoir.
Pour participer à ce jeu concours, vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien. Vous découvrirez les questions autour de nos émissions. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite aussi de gagner les nombreux lots que nous vous proposons. Merci et à bientôt.